présenté ce matin, ce midi même, il est 12h30, par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la vaccination contre le Covid-19 en France, les autorités ont-elles véritablement choisi d'attendre avant d'accélérer? Élément de réponse avec Thomas Larabi. Une marche blanche cet après-midi à Paris en souvenir de Cédric Chouvia, mort lors d'un contrôle policier. Il y a tout juste un an, marche hommage et de combat contre toutes les violences policières. Retour sur les faits avec Delphine Gauthier. La stratégie antiterroriste de Paris au Sahel, de nouveau fragilisée par la mort de deux soldats de la force Barkhane hier lors d'une mission au Mali. Analyse de Nathalie Hernandez. Et puis Chine, Turquie, Venezuela, l'Arabie Saoudite, quelques pays parmi tant d'autres qui maltraitent les avocats. Le barreau de Paris vole au secours de ses confrères. C'est le sujet de la face cachée du globe présentée ce dimanche par Nadine Epstein. La France a-t-elle les moyens de sa politique en matière de vaccination contre le coronavirus? La commissaire européenne à la santé n'a-t-elle pas reconnu hier, je cite, une insuffisance mondiale des capacités de production? Pour autant, les chiffres français interrogent. Plusieurs centaines de personnes seulement ont été vaccinées contre 130 000, par exemple, chez nos voisins allemands. Bonjour Thomas Larabi.
Bonjour Mathieu.
Thomas, le gouvernement prend acte et promet un véritable coup d'accélérateur.
Oui, il y a d'abord ces propos d'Emmanuel Macron qui ont volontairement fuité jusqu'aux oreilles du JDD. La vaccination en France va à un rythme de promenade de famille. Ça agacerait en privé le chef de l'État qui veut faire changer les choses vite et fort et s'insurge que les médecins volontaires pour se faire vacciner ne puissent pas, je cite, donner l'exemple aux patients. Et la communication est bien synchronisée puisque le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce de son côté que la vaccination des soignants de plus de 50 ans, prévue initialement en février, débute finalement dès demain. Autre annonce, un renforcement de la logistique pour acheminer les vaccins dans les EHPAD et l'arrivée de 500 000 doses supplémentaires chaque semaine, Mathieu.
Alors Thomas, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui justifie la lenteur actuelle de la vaccination en France par le choix de vacciner les publics les plus fragiles.
Oui, vacciner les pensionnaires d'EHPAD pose selon lui des problèmes à la fois en termes d'acheminement du vaccin, on l'a dit, mais aussi en termes de consentement. Pour le moment, le processus de recueil du consentement et la recherche d'éventuelles contre-indications prend parfois plusieurs jours au grand dam de nombreux professionnels comme Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Selon lui, pour aller plus vite sans pour autant passer outre ce processus de consentement, il faut s'appuyer le plus vite possible sur la médecine de ville. Écoutez.
On peut tout à fait faire une consultation, recueillir le consentement et vacciner dans la foulée ou le lendemain même. Je crois que on peut organiser des vaccinations regroupées dans des cabinets de groupe, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, dans des structures que les médecins libéraux sont préorganisés dans les territoires, de façon à contourner cette difficulté de ce vaccin qui se conserve à basse température. Et le recueil du consentement, il est fondamental, parce que sinon, les Français auront l'impression qu'on leur force la main. Et ça, c'est auprès de leurs médecins de ville qui trouveront la réponse à leurs questions.
Un travail de confiance complexe, alors que la France est un des pays les plus réfractaires à cette vaccination, on le rappelle. Selon un récent sondage Ipsos, seules 4 personnes interrogées sur 10 souhaitent se faire administrer ce vaccin.
Merci à vous Thomas Larabi. Le secrétaire général de la CGT met en garde le gouvernement contre la colère, je cite, qui anime le pays après 10 mois de crise sanitaire et annonce des mobilisations fin janvier dans les secteurs de l'énergie et de l'éducation. Selon Philippe Martinez, l'épidémie a mis en exergue des maux qu'on pointait depuis longtemps déjà, la saturation des hôpitaux, la précarité de l'emploi, l'absence de conditionnalité aux aides publiques, fin de citation. Parmi les bénéficiaires de ces aides publiques, le groupe Lagardère, dont la trésorerie est manifestement en grande difficulté. Lagardère s'est vu octroyer un prêt garanti par l'État d'un montant de 465 millions d'euros. Information publiée ce dimanche au journal officiel. Il y a un an, jour pour jour, Cédric Chouvia décédait lors d'un contrôle policier Quai Branly à Paris. Ce père de famille de 42 ans, livreur de profession, était alors plaqué au sol après avoir subi, selon l'inspection générale de la police, un étranglement arrière. 3 fonctionnaires de police ont été mis en examen pour homicide involontaire. Cet après-midi, une marche rendra hommage à Cédric Chouvia, mais aussi à toutes les familles de victimes de violences policières. Delphine Gauthier.
Pendant 22 secondes, Cédric Chouvia, plaqué à terre avec son casque de moto sur la tête, répète à 7 reprises « j'étouffe ». Devant les juges, les policiers ont affirmé ne pas avoir entendu ces mots. Couverts ont-ils expliqué par le bruit ambiant et les klaxons. Une reconstitution acoustique doit avoir lieu prochainement pour déterminer si les fonctionnaires ont pu ou non entendre la supplique du père de famille. Dans tous les cas, estime sa femme, Doria Chouvia, ils auraient déjà dû être suspendus de leurs fonctions.
C'est carrément pas normal parce qu'ils n'ont pas leur place dans la police. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui contredisent complètement la version des policiers. Donc, avec tout ça, avec une fracture du larynx, avec Cédric qui, à 7 reprises, a dit qu'il étouffait, il devrait être plus que suspendu.
Ce que demande aussi la famille de Cédric Chouvia, c'est l'interdiction de la technique d'immobilisation dite de la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Elle se mobilise aussi contre la proposition de loi sécurité globale.
Dans notre malheur, on n'a pas arrêté de le clamer. On a eu énormément de choses d'avoir autant de vidéos, de témoignages, etc. La loi sécurité globale, la seule chose qui résonne dans nos têtes, c'est la prochaine fois qu'il y aura une bavure, faut pas qu'elle soit filmée.
Et plusieurs familles de victimes de violences policières seront aux côtés de la famille Chouvia cet après-midi.
Et la famille Chouvia sera entourée de l'un de ses avocats, maître Arié Halimi, qui inscrit cette marche blanche dans le cadre de pratiques opaques relevées dans bien des affaires de violences policières. Arié Halimi.
Quelle est cette société dans laquelle le calendrier finalement se remplit de dates de commémoration de victimes de violences policières, un peu plus chaque jour? Une société qui tente de dissimuler à chaque fois qu'il y a une victime de violences policières, comme on l'a vu pour Cédric Chouvia, après que la préfecture, juste après son décès, ait tenté de dissimuler les raisons de sa mort en disant qu'il avait eu un simple malaise cardiaque. Quelle est cette société qui refuse aux victimes de violences policières une reconnaissance et dont la parole n'a plus véritablement de sens? On le voit avec le ministère de l'Intérieur qui nous avait reçu avec la famille Chouvia au tout début en disant que si il y avait des informations véritables sur les raisons de sa mort, eh bien, les policiers seraient suspendus. Et aujourd'hui encore, alors même que nous savons les raisons pour lesquelles il est mort, c'est-à-dire une fracture du larynx, eh bien, aucune suspension de ces policiers. Voilà toutes les questions et les raisons pour lesquelles nous serons là.
Maître Arié Halimi, des propos recueillis par Matteo Maestracci. La mort hier de 2 soldats français de la force Barkhane lors d'une mission de reconnaissance au Mali questionne de nouveau la stratégie antiterroriste de la France au Sahel. Un an après le sommet de Pau, au terme duquel l'Élysée avait fait l'objet d'accusations d'ingérence et d'inefficacité, le gouvernement n'a aucunement l'intention de changer de cap. Nathalie Hernandez.
Paris entend continuer la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pour la France, comme l'avait rappelé Emmanuel Macron lors du sommet de Pau, c'est à la demande de ses partenaires africains qu'elle est intervenue. Barkhane s'était d'ailleurs renforcée avec l'envoi de 600 soldats supplémentaires pour concentrer ses efforts dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une unité de forces spéciales européennes, Takuba, a également été lancée, mais elle prend du retard. Seuls les Estoniens ont rejoint les Français pour l'instant. Si Barkhane a marqué des points contre l'État islamique au Grand Sahara et contre son concurrent le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une émanation d'Al-Qaïda au Sahel. Ce dernier, le GSIM, reste l'ennemi le plus dangereux. Il est rusé, agile, capable à la fois d'une vision et de coups tactiques, déclaré à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines le commandant de Barkhane, le général Mark Onruit. Un adversaire qui s'est sans doute senti renforcé, notamment après le coup d'État au Mali l'été dernier, et les tractations qui ont conduit à la libération d'otages, dont la française Sophie Pétronin, en échange de plus de 200 prisonniers et d'une forte rançon. Hier, le GSIM a revendiqué l'attaque à l'engin explosif du 28 décembre contre 3 soldats français, quelques heures après la mort de 2 autres militaires près de Ménaka, dans les mêmes circonstances. Voilà de quoi mettre Paris dans l'embarras pour le prochain sommet au Sahel, un sommet qui doit faire le bilan de ces 12 derniers mois et qui devrait voir Barkhane revenir à son format initial de 4500 soldats.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nadine Epstein. On écoute la face cachée du globe que vous nous présentez ce dimanche, Nadine.
Bonjour à vous. Aujourd'hui dans le monde, exercer la profession d'avocat devient de plus en plus dangereux. Les robes noires risquent dans certains cas des condamnations plus fortes que les clients qu'elles défendent. Face à cette situation, les avocats du barreau de Paris lancent un nouveau programme d'aide à leurs confrères menacés aux quatre coins de la planète. Les explications de Maître Martin Pradel.
Les avocats qui sont menacés sont des personnalités engagées sur des questions comme l'état de droit, sur l'égalité, sur la promotion de la liberté d'expression. Et ces personnes, elles mènent souvent un combat sur le terrain. C'est parfois très difficile d'arriver à les soutenir, particulièrement ces temps-ci, alors que le monde est touché par une pandémie qui nous empêche de voyager. On a une situation de plus en plus difficile car ses confrères, ses avocats sont très isolés.
Dans quel pays les avocats sont le plus en danger?
Des pays comme la Chine, la Turquie, la Colombie, le Venezuela, l'Arabie Saoudite. Je pense au cas de Raif Badawi. Raif Badawi est un blogueur et journaliste qui parle de la liberté d'expression dans son pays, l'Arabie Saoudite. Et il est condamné très lourdement, 10 années d'emprisonnement et 2000 coups de fouet. Et la seule personne qui va accepter de le défendre, en fait, c'est un avocat, c'est son beau-frère. Et cet avocat, pour avoir simplement dit que son client aurait dû avoir la possibilité d'exercer librement la liberté d'expression, cet avocat va être poursuivi à une peine supérieure à celle infligée à son client, puisqu'il va être condamné à une peine de 15 années d'emprisonnement. Quand un avocat va en Turquie défendre une personne accusée de terrorisme, les autorités, très souvent, vont considérer que, en défendant son client, l'avocat a simplement fait une promotion de la violence de son client. Cette assimilation se fait parce qu'on va dire, bien, l'avocat apporte une assistance à une personne accusée de terrorisme et apporter une assistance à un terroriste, n'est-ce pas être un peu son complice? Donc c'est là qu'est la difficulté pour les avocats du monde.
Dans ce contexte, le barreau de Paris a donc décidé de créer un programme qui s'appelle Répit.
Répit pour permettre aux avocats qui le souhaiteraient dans le monde, parce qu'ils sont menacés, qui souhaiteraient simplement marquer un temps de pause et reprendre des forces à Paris. Et donc l'idée est vraiment à la carte, soit de leur permettre de se faire oublier quelque temps, soit d'être dans la lumière pour combattre autrement, mais dans un cadre sécurisant qui est offert par la France. Aujourd'hui, c'est un projet qui est viable. Et ce programme, voilà, nous le proposons. On a bon espoir de pouvoir accueillir très prochainement des confrères d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe centrale pour leur permettre justement de bénéficier de ce répit offert par le barreau de Paris.
Martin Pradel, avocat au barreau de Paris. C'est assez rare pour être souligné. Une étudiante de 21 ans est devenue maire d'une ville d'1 million d'habitants. Cela se passe en Inde, dans l'état du Kerala. Et la jeune fille, qui s'est faite élire, après un parcours de militante du Parti communiste, a séduit grâce à un programme basé sur l'hygiène et la santé. L'histoire nous est racontée par Combastin.
Elle a 21 ans, elle est étudiante en mathématiques et elle est la plus jeune maire jamais élue dans une ville en Inde. Pas d'une bourgade, Arya Rajendran va prendre la tête de Trivandrum et son 1 million d'habitants, la capitale de l'état du Kerala au sud-ouest du pays. Aussi jeune qu'elle soit, Arya Rajendran n'en est pas arrivée là par hasard. Lors de ses études, elle s'engage auprès de la branche jeunesse du Parti communiste, elle en est aujourd'hui la présidente. Elle se fait connaître à Trivandrum, dans son quartier, où elle milite pour une meilleure gestion des déchets et l'ouverture d'un centre de santé primaire pour les habitants. Voici ce qu'elle déclare à la télévision indienne quelques jours avant d'être choisie par le conseil municipal.
En tant qu'étudiante et en tant que représentante de la jeunesse, j'ai fait face à plusieurs problèmes municipaux. Le plus important était celui de l'hygiène et des infrastructures sanitaires. Même pendant le Covid, les gens avaient peur de se rendre à l'hôpital. Je veux offrir de meilleurs soins pour tous et je pense que ma candidature est un signe d'espoir pour tous les jeunes indiens.
Le Parti communiste a dirigé le Kerala quasi continuellement depuis l'indépendance de l'Inde. Cet État est connu pour son taux d'alphabétisation record de 92% pour les femmes, qui reçoivent souvent une éducation élevée. C'est dans ce bouillon politique et social que Arya Rajendran a pu percer. Ses deux parents sont d'ailleurs des militants actifs au sein du parti. Pour les communistes, le choix d'Arya Rajendran est aussi une stratégie politique pour montrer leur engagement en faveur du droit des femmes. Mais quel que soit leur bord, les médias indiens saluent aujourd'hui le symbole que représente pour le pays l'élection de cette femme jeune et engagée.
Merci de votre attention, bon dimanche.
Merci à vous, Nadine Epstein. Des groupes armés ont attaqué au petit jour, information qui nous est parvenue dans la matinée, la ville de Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique. 2 semaines après une offensive lancée par les rebelles et à la veille des premiers résultats de l'élection présidentielle. Information que l'on doit au chef du bureau régional de la mission onusienne dans la ville. Quelques mots de la météo pour la France métropolitaine. Dimanche hivernale sur la majeure partie du pays et temps instable sur la façade atlantique. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet, à la technique Élise Le.